Eh bien, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, dans une douzaine de jours, eh bien, vous allez pouvoir voter pour une liste de travailleuses et de travailleurs. Donc, pas pour des professionnels de la politique, hein, pour des militants ouvriers qui ont à cœur dans les entreprises de s'adresser à leurs camarades et les rassembler pour qu'ils se fassent respecter face à l'exploitation patronale. Vous allez pouvoir voter pour des militants convaincus que notre camp doit retrouver la conscience de sa force et le chemin de la lutte collective. Pas seulement pour arracher de meilleures conditions de travail, mais aussi pour renverser le système capitaliste qui nous enfonce dans les crises et dans les guerres. Même dans un pays riche hein, comme le nôtre, la dégradation des conditions de vie du monde du travail crève les yeux. Les milliards s'accumulent dans les caisses patronales, alors c'est 150 milliards hein, quand même, rien que pour les 40 entreprises qui sont cotées en bourse, en tout cas 40. Voilà, pour cette poignée de privilégiés, eh bien, les profits, les dividendes et les fortunes ont explosé tous les records. Il y a même des PDG, vous avez sans doute entendu, hein, qui sont payés 100 000 euros par jour. Hein, par jour. Mais nous rajoutons toujours que s'ils sont si bien payés, ces gens-là, c'est parce qu'ils rapportent encore bien plus à leurs actionnaires. Et chaque jour, ils rapportent quelques 18 milliards, quelques 18 millions, c'est par jour, voilà, 18 millions par jour aux actionnaires réunis là, du groupe Stellantis, la fusion de Peugeot et de Fiat. Voilà. Donc à côté de ces montagnes hein, de fric, eh bien combien de travailleurs triment du matin au soir sans arriver à régler leurs factures, à se loger, se chauffer, se nourrir correctement? Combien de femmes et d'hommes cassés aussi par le travail sont livrés à la misère et à des retraites indignes? Et combien de quartiers populaires où la jeunesse, après avoir été rejetée par l'école, se retrouve livrée à la petite délinquance et au trafic en tout genre? Et c'est toujours ces classes populaires, c'est toujours les femmes et les hommes, ces classes populaires qui sont pointées du doigt, qui sont accusées. Alors accusées de ne pas vouloir travailler, accusées de ne pas s'occuper de leurs enfants, accusées aussi d'abuser des médicaments, et puis alors leur dernière trouvaille, c'est maintenant d'accuser les gens d'abuser des HLM. Et puis sont toujours ces femmes et ces hommes hein, qui sont licenciés, y compris pour des broutilles. Pour des broutilles comme cette femme de ménage des toilettes de la gare Montparnasse qui a été licenciée pour avoir récupéré 1 euro de pourboire. Mis à part ça, eh bien, Macron veut nous endormir avec les Jeux Olympiques, avec l'unité nationale et les histoires de trêve sociale. La vérité, c'est que la lutte de classe, hein, la guerre sociale que le patronat nous mène, ne s'arrête absolument jamais. Et nous mesurons aussi de plus en plus concrètement les ravages du capitalisme sur la nature. La crise climatique, les sécheresses, les pics de chaleur, là vous avez peut-être vu, ils disent 49,5, 50 degrés à New Delhi en ce moment, hein, mais aussi les inondations, hein, et bien tout ça, cela provoque déjà des souffrances terribles pour des dizaines, des centaines de millions de femmes et d'hommes de par le monde. Et ça représente une véritable catastrophe pour toute l'humanité. Mais regardez comment cette catastrophe, elle est éclipsée par une autre catastrophe. Je veux parler de la guerre, plus exactement des guerres. Avec le conflit en Ukraine, les tranchées sont de retour. Les tranchées donc, de la guerre de 1914 hein, sont de retour maintenant sur le continent européen. Les scènes que l'on associe à la Seconde Guerre mondiale, le bombardement des villes, les alertes aériennes, les refuges précipités dans les caves, toutes ces images que l'on associait à la Seconde Guerre mondiale sont devenues le quotidien pour les Ukrainiens depuis 2 ans. À Gaza, les défenseurs du gouvernement israélien nous expliquent qu'ils mènent une guerre civilisée qui n'a rien à voir avec les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Et à quoi sert tout ce degré de civilisation? Eh bien, à transformer Gaza en un champ de ruines, à plonger la population dans la terreur et à la famine. Quand ce bain de sang finira-t-il? Combien de morts avant que les États-Unis daignent retenir la main de leur allié Netanyahou? Est-ce qu'il restera seulement un immeuble debout à Gaza, une école, un hôpital capable de fonctionner? Toutes ces tragédies, et je pense aussi à ce qui se passe en ce moment au Soudan, au Kivu, en République démocratique du Congo, à Mayotte, en Haïti. Toutes ces tragédies, eh bien, elles se déroulent donc aujourd'hui, en 2024, alors que l'humanité n'a jamais eu autant de connaissances, de richesses et autant la capacité de les faire circuler et de les partager. Alors que l'humanité n'a jamais eu autant la possibilité, finalement, de vivre en harmonie. Bien sûr qu'il y a de la place et les moyens de vivre dignement pour tout le monde sur cette planète. Il y a de la place en Palestine et en Israël pour que les deux peuples vivent côte à côte. Et les Ukrainiens et les Russes peuvent bien sûr vivre en bon voisinage et ils peuvent même se mélanger. Ils l'ont fait pendant des décennies. Et bien des gens, bien des familles ne se demandaient pas s'ils se sentaient plus ukrainiennes ou russes. Cet avenir-là, il est possible. Mais cela nécessite d'en finir avec les causes profondes de toutes ces guerres et d'en finir avec tous les fauteurs de guerre. À commencer par les plus importants, c'est-à-dire ceux qui gouvernent le monde, je veux parler des États impérialistes occidentaux, des États-Unis et des principaux États européens, dont bien sûr la France. Parce que pour nous, Poutine et Xi Jinping d'un côté, Biden et ses seconds couteaux de l'autre, sont les deux faces d'une même pièce. Les régimes russes et chinois sont des dictatures qui écrasent leur population sous un talon de fer, et oui, ils sont prêts à user de la force pour conserver leur sphère d'influence. Mais exactement comme les puissances impérialistes occidentales, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne et la France, qui ne s'en sont jamais privés pour établir leur domination coloniale et impérialiste sur le monde, et qui continuent aujourd'hui. Et c'est ce qu'elles font, en fait, en Ukraine. Aujourd'hui, si les États-Unis et les États européens s'impliquent autant dans la guerre en Ukraine, ce n'est pas pour aider les ouvriers, les paysans ukrainiens. Ils y sont pour leurs intérêts. Ils mènent cette guerre pour affaiblir la Russie et pour finir d'asseoir leur domination économique, politique et militaire sur cette région du monde. Rachat d'usines, d'entreprises, mainmise sur les fameuses terres noires d'Ukraine, endettement auprès des banques occidentales, une bonne partie de l'économie ukrainienne est déjà passée sous la coupe des capitalistes occidentaux. Et la guerre accélère le mouvement, en plus d'être une formidable entreprise commerciale pour tous les marchands de canons et pour ceux qui lorgnent aussi sur la reconstruction de l'Ukraine. Pendant que toutes ces affaires vont bon train et que les contrats sont en train d'être signés, il y a les Ukrainiens qui sont transformés en soldats, souvent des fils de paysans et d'ouvriers, laissent une jambe, un bras, voire leur peau dans les combats. Alors non, les grandes puissances occidentales ne sont pas les puissances de paix, ne sont pas des puissances de paix. Elles mettent en avant le droit international et les principes de liberté et de démocratie uniquement quand ça les arrange et quand cela va dans le sens de leurs intérêts. Et c'est évident quand on regarde ce qui se passe en Palestine. Parce que pour les Palestiniens, elle est où la liberté? Elle est où le droit international? Ça fait 75 ans que les grandes puissances regardent Israël, leur allié privilégié, fouler aux pieds les droits élémentaires des Palestiniens. 75 ans qu'ils s'accommodent de ce que l'État d'Israël opprime, colonise et chasse les Palestiniens de leurs terres pour les disperser et les transformer en réfugiés à vie dans les pays voisins. Et aujourd'hui, eh bien, ils laissent faire un massacre. En réalité, ce que les grandes puissances appellent le droit international, c'est leur droit au pillage, leur droit de mettre en place des régimes à leur botte et de renverser ceux qu'elles jugent indociles. C'est leur droit de maintenir les peuples et des régions entières sous leur domination. À une bien plus petite échelle, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'est française que par la violence des troupes coloniales qui y ont débarqué il y a 170 ans et qui ont soumis les Kanaks en les massacrant quand ils se révoltaient et les ont spoliés de leurs terres et de leurs minerais. L'État français s'est ensuite évertué à rendre les Kanaks minoritaires dans un pays qui était devenu le pays du nickel pour tous les capitalistes. Et donc l'État français a fait venir des dizaines de milliers de travailleurs de France de gré ou de force avec les bagnards, dont furent aussi les communards déportés, comme Louise Michel. La population blanche et la population noire autochtone auraient tout à fait pu vivre ensemble. Leurs différences culturelles auraient pu être source d'épanouissement mutuel. Mais l'État français ne l'a pas permis. Il a utilisé les nouveaux arrivants contre la population kanak, la repoussant toujours plus dans les terres, la marginalisant et l'appauvrissant toujours davantage. Et la volonté actuelle du gouvernement d'imposer l'élargissement du corps électoral, on pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais cette volonté-là, elle est dans la continuité de cette politique coloniale. Alors, la révolte que ce passage en force a suscité est légitime. Il revient bien aux Kanaks, dont la Nouvelle-Calédonie et la Terre, de décider de leur avenir. Pour toutes ces raisons, il faut réaliser que les principaux fauteurs de guerre sont chez nous. Ce sont ceux qui nous parlent de concurrence, de guerre économique, de compétitivité. Ce sont nos dirigeants. Pendant quelques semaines, les chefs d'État vont nous amuser avec les Jeux Olympiques. L'esprit de concorde, l'esprit de paix. Hein. Mais la réalité, c'est qu'après avoir plongé l'humanité dans deux guerres mondiales, ils sont en train de préparer la troisième. Les deux géants, que sont la Chine et les États-Unis, sont en train d'accumuler tout un arsenal pour se faire la guerre. Exactement comme les États européens, qui sont eux aussi ouvertement battus en guerre. Un des grands sujets de cette campagne, c'est d'ailleurs la participation à l'effort de guerre en Ukraine. C'est l'Europe de la défense et la transformation de l'économie européenne en économie de guerre. Et j'en profite au passage pour préciser que nous ne sommes sûrement pas de ceux qui revendiquons l'indépendance de l'armée française ou l'indépendance de l'impérialisme français. Que la défense et l'armée soient placées sous l'égide de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis au travers de l'OTAN, elles défendront toujours les intérêts de la grande bourgeoisie, jamais ceux des travailleurs. Elles resteront aux mains de généraux qui se sont illustrés dans toutes les sales guerres coloniales et aux mains de politiciens qui se moquent bien que les ouvriers meurent au travail ou crèvent au chômage. Quand on les écoute, nous sommes censés suivre, hein, les suivre comme un seul homme, hein, accepter hein, que ce soit eux hein, qui mènent hein, la guerre dans laquelle on devrait tous se laisser embrigader. Mais tous ces dirigeants n'ont rien à faire de notre peau aujourd'hui. Et c'est à eux qu'il faudrait la confier demain si le pays était attaqué. Tant que la population ouvrière ne peut pas contrôler l'armée et ses officiers, tant qu'elle ne peut pas décider elle-même si une guerre mérite d'être menée, il faut refuser de marcher au pas. Si le gouvernement, l'armée et l'État de la bourgeoisie veulent nous embrigader, ce sera pour que l'on meure pour leur profit. Ce sera pour que l'on défende leur ordre impérialiste, infâme, meurtrier et barbare. Alors nous disons, pas un homme pour la guerre des capitalistes, pas un sou de plus pour les marchands de canons. Et comme le disent les paroles de l'international, s'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Ceux qui, comme Macron ou Glucksmann, essayent de vanter les vertus de l'Union européenne en la décrivant comme un partenariat politique et économique, sont ridicules. Vous remplacez le mot partenariat par foire d'empoigne entre brigands, et là, oui, vous vous rapprochez beaucoup plus de la réalité. Parce que l'Union européenne, tout comme l'État français d'ailleurs, est une institution construite par et pour les capitalistes. Et elle ne peut pas être autre chose qu'une juxtaposition d'égoïsmes nationaux. Parce que la construction du marché européen n'a jamais fait disparaître la concurrence entre les groupes capitalistes européens et entre leurs États respectifs. L'Union européenne est tout, sauf une union fraternelle des peuples européens. C'est une union qui pérennise les inégalités et les rapports de domination entre les pays riches d'Europe de l'Ouest sur ceux plus pauvres de l'Europe de l'Est et du Sud. avec des pays comme la Grèce. Et c'est une union qui n'a ni protégé les droits des travailleurs, ni même les droits des femmes, qui n'ont pas tout droit encore à l'IVG, puisque en Pologne, à Malte, hein, ce droit est nié. Et puis, c'est une union qui n'a absolument pas fait reculer les idées nationalistes. Il y a désormais des clones de Le Pen et de Mélanie un peu partout, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche. Dans tous les pays membres de l'Union européenne, les idées souverainistes, protectionnistes et chauvines font un retour en force. Ici, en France, malgré les rivalités politiciennes, un point fait consensus entre tous les candidats. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez suivi certains de leurs débats. Hein, moi, je n'ai pas pu, mais j'ai quand même eu quelques échos. Mais ceux qui ont regardé, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais ils sont quand même absolument tous d'accord pour dire que la souveraineté française serait menacée par les traités de libre-échange. En cœur, avec le patronat, ils parlent tous de nos entreprises, de notre agriculture, de notre industrie, de notre souveraineté énergétique, alimentaire. Mais qui y a-t-il derrière ce nous? Quand est-ce que les ouvriers de Carrefour, de Sanofi, de Lactalis, d'Honnête ont leur mot à dire sur la marche de leur entreprise, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils peuvent seulement exprimer leur avis sur ce qu'il faut produire et de quelle manière? Non. Non, parce que, précisément, ce ne sont pas nos entreprises. Nous avons beau faire le travail, nous avons beau y passer l'essentiel hein, de nos vies, et bien ces entreprises restent la propriété de patrons et d'actionnaires qui en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent les vendre à un concurrent, ils peuvent les liquider si elles ne leur rapportent plus assez, comme Naomi l'a fait, par exemple, avec le casino. À leurs yeux, les travailleurs ne sont que des pions qu'ils peuvent exploiter, déplacer ou jeter. Alors quand les uns ou les autres nous parlent de souveraineté française, en réalité, ils défendent la souveraineté de ce grand patronat. Ils défendent la souveraineté des Muliez, des Peugeot, des Bolloré, des Michelin, des Leclerc. Ils cachent le fait que la grande bourgeoisie, les actionnaires et les spéculateurs qui ne jouent aucun rôle utile dans la production décident de tout, alors que nous, les travailleurs qui faisons tout le boulot, nous ne décidons de rien. La souveraineté des travailleurs, les travailleurs ne la trouveront que dans la révolution prolétarienne, c'est-à-dire quand ils auront exproprié la bourgeoisie et pris eux-mêmes le pouvoir sur les entreprises, et quand ils auront en effet pris aussi le pouvoir politique et qu'ils dirigeront eux-mêmes la société à tous les niveaux, c'est-à-dire en France, en Europe et aussi à l'échelle du monde. Ce qui est assez frappant, c'est que dans cette campagne, finalement, les frontières sont défendues, y compris par les partis de gauche, qui prônent exactement comme le RN, plus de protectionnisme, en expliquant qu'il faudrait craindre la concurrence des ouvriers mal payés d'Ukraine, de Moldavie ou de Chine. Mais c'est précisément parce que le grand patronat a toujours mis en concurrence les exploités des différents pays que les militants ouvriers, socialistes et communistes ont construit à plusieurs reprises des internationales ouvrières. C'est pour cela qu'ils ont cherché à coordonner leurs luttes et leurs revendications, comme lors de la journée du 1er mai ou de celle du 8 mars consacrée à la lutte des femmes. C'est pour cela que tous les partis ouvriers, lorsqu'ils étaient encore révolutionnaires, étaient d'abord et avant tout internationalistes. L'internationalisme de la classe ouvrière, la conscience que tous les travailleurs du monde ont les mêmes intérêts, est une réalité sociale et humaine depuis toujours. Déjà en 1845, Marx écrivait « La nationalité du travailleur n'est pas française, anglaise, allemande. Elle est le travail, le libre esclavage, le trafic de soi-même. Son gouvernement n'est pas français, anglais, allemand. C'est le capital, l'air qu'il respire chez lui n'est pas l'air français, anglais, allemand, c'est l'air des usines. Et il suffit de regarder aujourd'hui les entreprises respectives dans lesquelles nous travaillons pour constater que ces entreprises, elles fonctionnent avec des matières premières et des composants qui viennent du monde entier. Elles fonctionnent avec des travailleurs qui viennent eux-mêmes du monde entier. Alors qu'est-ce que ça veut dire produire français ? Non, nous ne produisons pas français. En revanche, on produit bien sous les ordres des capitalistes, avec leur organisation à l'échelle internationale. Et on peut trouver cette organisation stupide et aberrante, et elle l'est par bien des aspects, mais si on en veut une autre qui corresponde réellement aux intérêts des travailleurs du monde entier et qui respecte la planète, eh bien il faut exproprier les actionnaires et prendre le contrôle des multinationales. Tout le reste, c'est du baratin et ça sert à mettre les travailleurs à la remorque de la bourgeoisie. Un des aspects les plus révoltants de l'Union européenne, c'est qu'elle est en train de se barricader. En 2014, l'Union européenne comptait 300 km de barrières et de murs frontaliers. Aujourd'hui, elle en compte plus de 2000. Partout, l'Union européenne est sillonnée par des policiers, des douaniers, des militaires pour faire la chasse à des femmes et des hommes qui ne demandent qu'à gagner leur vie. Les dirigeants de l'Union européenne n'en sont pas encore à déporter les travailleurs immigrés sans papier au Rwanda et à supprimer le droit d'asile, comme l'a décidé le Royaume-Uni. Mais leur politique s'en rapproche. L'Union européenne verse des millions d'euros à la Libye, des milliards à la Turquie pour retenir les migrants. En 2023, plus de 2500 morts ont été recensés dans des naufrages en Méditerranée. Et c'est bien sûr sans compter tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. C'est une politique criminelle. Une politique criminelle qui a sa déclinaison dans tous les pays. En France, Macron, qui s'est fait élire deux fois sur la promesse de faire barrage à l'extrême droite, a fait voter une loi anti-immigrée qui est du copier-coller du programme de Le Pen. Et c'est pas seulement une loi anti-immigrée. C'est une attaque de plus contre tous les travailleurs. Parce qu'attaquer les immigrés, c'est s'en prendre à des femmes de ménage, à des ouvriers du bâtiment, à des cuisiniers, des manutentionnaires, des livreurs, des aides à domicile. C'est s'en prendre à des travailleuses et à des travailleurs qui se lèvent tôt pour gagner leur vie, qui font souvent les boulots les plus pénibles et les plus mal payés. Et quand on appartient au monde du travail, eh bien on connaît le prix de cette exploitation. Alors non, surtout non. Ne laissons pas le gouvernement et les petits roquets d'extrême droite faire passer ses camarades de travail pour des profiteurs, voire pour des chasseurs. Pointer du doigt les immigrés et les présenter comme des délinquants ou des menaces de spécialité du Rassemblement national. Et force est de constater que de plus en plus de gens autour de nous, de travailleurs, sont tentés de voter pour l'ERM. Ils sont loin. Et voilà. Et nous pensons, il faudra qu'on en discute, mais qu'il faut discuter avec eux. Il faut discuter et encore discuter. Nous pensons qu'ils sont loin de tous partager les idées racistes et xénophobes du RN. Beaucoup de ceux qui sont tentés par ce vote le font par dépit et par dégoût de ce qu'ont fait la gauche, la droite et puis aussi cette synthèse gauche-droite de Macron au pouvoir. Du fait que le RN n'a jamais été au gouvernement et qu'il a longtemps été ostracisé par toutes les cliques politiciennes, il jouit d'une image anti-système. Mais il suffit de jeter un coup d'œil à la liste qu'il présente aux Européennes pour se rendre compte de l'escroquerie. Prenez la tête de liste, Jordan Bardella. Alors, il essaye de se faire passer pour un homme du peuple, sous prétexte qu'il a grandi en HLM. Mais que connaît-il de la vie de la classe ouvrière ? Ce petit bureaucrate qui, à 20 ans, est devenu un assistant parlementaire, un politicien professionnel. La deuxième de la liste, c'est Malika Sorel. Alors, elle a fait Sciences Po, hein, et puis ensuite, effectivement, elle a essayé de vendre ses services à tous les politicards possibles. Hein. Elle a été conseillère de Villepin, de Sarkozy, et elle est tellement anti-système qu'elle a été nommée par ce dernier membre du Haut Conseil à l'intégration. Le troisième de liste, c'est Fabrice Leggeri, c'est un haut fonctionnaire, alors pas des plus reluisants, hein, puisqu'il a dirigé l'agence Frontex, qu'il chargeait hein, de repousser les migrants à la mer. Et donc voilà, lui c'est encore un haut fonctionnaire hein, très très éloigné, n'est-ce pas, de la vie des travailleurs. Et puis vient aussi, bon il y en a d'autres, mais j'en ai noté quand même un qui a la palme, c'est Thierry Mariani. Voilà. Thierry Mariani, c'est quand même voilà, le politicien professionnel de droite depuis 35 ans, qui a occupé tous les postes électifs possibles et imaginables de la République bourgeoise, jusqu'à devenir le ministre des Transports donc de Sarkozy Fillon en 2010. Alors voilà, voilà ce qu'est la liste du RN. Des hauts fonctionnaires, des avocats, des magistrats, des flics, des anciens ministres, des politiciens professionnels, des élus, des permanents du parti, bon, autrement dit, un ramassis de notables. Voilà. Et voter pour cette liste permettra peut-être de relancer la carrière des uns ou des autres, mais certainement pas de s'en prendre à un système capitaliste dont ils sont tous de chauds partisans. Le RN se vante d'avoir une base électorale ouvrière. Mais il a toujours été et il reste un parti profondément bourgeois qui défend l'ordre établi, qui défend le système capitaliste. Le Pen et Bardella se cachent souvent derrière les petits patrons, derrière les petits agriculteurs pour défendre le grand patronat, pour défendre les capitalistes de l'agriculture. Et ils n'ont bien sûr jamais un mot contre l'exploitation et contre la rapacité patronale. Ils ont voté contre les augmentations du SMIC, contre la hausse de l'impôt sur la fortune, et ils ont toujours soutenu la répression contre les manifestations ouvrières. Et puis tout récemment, hein, Bardella, il est allé ramper devant le MEDEF pour essayer de le convaincre qu'avec lui aux manettes, bah, les affaires des bourgeois ne s'emporteront que mieux. Et pour finir, eh bien, le Rassemblement National diffuse la plus dangereuse, la plus pernicieuse des idéologies, celle de la division des travailleurs. Il répand à chacune de ses prises de parole le poison de la xénophobie, incitant les travailleurs à s'en prendre à leurs frères de classe d'origine étrangère pour détourner leur regard et leur colère des seuls vrais responsables de l'exploitation, du chômage, des bas salaires et de la pauvreté, c'est-à-dire le grand patronat. Alors non, le vote pour le RN n'est ni un vote de protestation, ni un vote anti-système. Alors je dis à tous les travailleurs désorientés qui croient exprimer leur révolte et leur colère en votant pour le RN, tu te trompes. En votant pour Bardella, tu votes pour ton patron, tu votes pour ton exploiteur, tu votes pour ton futur licencieur. Et tu votes contre tes camarades de travail, et ce faisant, tu votes contre toi-même. Alors si tu veux exprimer ta colère, eh bien fais-le clairement, sans ambiguïté, en votant pour la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Alors l'Europe unie et sans frontières, une Europe unie et sans frontières ouverte sur le monde, et je dirais même en premier lieu ouverte sur l'Afrique, hein, puisque ce continent a tellement de liens avec le continent européen que ça serait la moindre des choses. Mais donc cette Europe unie et sans frontières ouverte sur le monde, où l'on pourrait circuler librement de l'Atlantique à l'Oural, de la mer du Nord au Bosphore et à la Méditerranée, et s'enrichir de la diversité des cultures, est une idée fantastique. Le morcellement de la planète, la persistance et même la multiplication des frontières et du nombre d'États font partie des aspects les plus réactionnaires du capitalisme. Parce que la puissance des forces productives a dépassé depuis fort longtemps les limites imposées par toutes les frontières. Et parce que notre vie, à tous, c'est déjà une vie qui est mondialisée. On On vit déjà au rythme de la planète tout entière. Alors l'avenir, même pour les peuples opprimés, n'est pas à la création de nouveaux États, mais à leur fédération et à l'unification de l'économie et de la société à l'échelle du continent entier. Alors oui, notre perspective est bien celle d'une Europe sans frontières, plus même, nous aspirons à un monde où chaque être humain pourra dire « Mon pays, c'est la Terre, et ma patrie, c'est l'humanité ». Ce monde, il ne pourra naître que par une nouvelle révolution sociale. En son temps, la Révolution française a fait tomber beaucoup de frontières. La révolution des travailleurs pourra toutes les abattre. Parce qu'en plus de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, cette révolution pourra supprimer la domination des pays riches sur les pays pauvres. Alors bien sûr, par rapport à cette perspective qui est la nôtre, celle d'une société communiste à l'échelle internationale, les élections au Parlement européen ne sont qu'une péripétie. Mais dans une période où les larbins de la bourgeoisie, les nationalistes, les souverainistes et les racistes ont micro ouvert, faisons entendre cette perspective. Montrons qu'il y a des femmes et des hommes qui voient un tout autre avenir pour l'humanité que cette guerre de tous contre tous à laquelle ils nous condamnent. Montrons qu'il y a des femmes et des hommes qui ne se découragent pas et qui se réclament des intérêts politiques des travailleurs et de la perspective communiste révolutionnaire, c'est-à-dire de la mise en commun des richesses et des moyens de les produire pour enfin répondre aux besoins de chaque être humain sur cette planète. Et après nous être rassemblés dans le vote, eh bien rassemblons-nous pour construire le parti communiste révolutionnaire internationaliste qui manque cruellement à la classe ouvrière. Pas un parti de politiciens qui demande aux travailleurs de voter en expliquant qu'une fois élus, ils s'occuperont de tout le reste. Ces partis existent déjà, il y en a un bon petit paquet, et ils n'ont pas d'autre objectif que d'accéder à la mangeoire. Il faut un parti d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, de chômeurs, de retraités du monde du travail, présents dans le plus grand nombre d'entreprises du pays, non seulement pour contribuer à ce que les travailleurs se défendent dans la lutte de classe, mais aussi pour qu'ils se forgent une opinion politique révolutionnaire. Et il faut, voilà, parce qu'il faut un parti de femmes et d'hommes conscients d'avoir à changer les choses par eux-mêmes. Parce que c'est toujours d'en bas, du petit peuple, des travailleurs, des exploités, que sont nés les véritables changements. Ce parti doit bien sûr s'appuyer aussi sur la jeunesse ouvrière et intellectuelle. Et nous disons à tous les jeunes qui cherchent à changer de fond en comble la société, que ce chemin passe par la classe ouvrière. Il passe par la mobilisation massive des exploités. Parce que sans les millions de travailleuses et de travailleurs, il est non seulement impossible de monter à l'assaut des forteresses du grand capital, mais il est aussi impossible de les transformer en place forte de la révolution. Et impossible de faire le poids contre le pouvoir et ses forces de répression. Et je leur dis à ces jeunes, qui sont moins jeunes aussi, qui mesurent le recul du mouvement ouvrier, qui mesurent le fait que la combativité n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait, je leur dis de ne pas perdre confiance. Je leur dis que les opprimés, les exploités, peuvent endurer bien des souffrances et ils peuvent vivre au milieu des horreurs, pendant des mois, des années, et même parfois pendant des décennies, mais il finit toujours par y avoir des révoltes et des insurrections, c'est-à-dire des moments où des millions de femmes et d'hommes découvrent leur pouvoir d'agir. Alors qu'on soit dans une période de recul ou de remontée des luttes, le seul objectif, la seule perspective qui vaille d'être défendue est celle du renversement de la société capitaliste. Défendons cette perspective avec ténacité et enthousiasme au cœur du monde du travail, dans les entreprises et dans les quartiers populaires. Et alors menons cette campagne avec, avec l'enthousiasme et la détermination que nous apporte notre optimisme révolutionnaire. Chacun des votes qui se portera sur la liste du tout ouvrière sera un pas de plus vers la reconnaissance de la révolution, du programme de la révolution prolétarienne. Alors votez et faites voter pour la liste lutte ouvrière et rejoignez-nous dans le Parti communiste révolutionnaire et internationaliste.